On sait toutes et tous que l'orientation sexuelle peut faire l'objet de discrimination. On sait aussi que c'est le cas pour la couleur de peau, pour le genre, pour le handicap, et j'en passe. Maintenant, imaginez une femme noire. Une femme noire et homosexuelle. Eh bien, elle sera susceptible de subir du sexisme, du racisme et de l'homophobie. C'est ce qu'on appelle la discrimination intersectionnelle. L'intersectionnalité est une notion qui a été inventée par une universitaire et avocate américaine appelée Kimberly Crenshaw. À la base, pour parler de l'intersection entre le sexisme et le racisme subi par les femmes afro-américaines. Cette notion désigne la manière dont les différentes formes d'oppression, comme le racisme, le sexisme, le validisme, l'homophobie et d'autres, s'articulent et se renforcent mutuellement. Elle permet de comprendre que les expériences ne sont pas uniformes et de penser la complexité des inégalités sociales. Pour s'en rendre compte, je vous propose dans cet épisode d'entendre le récit d'une personne qui vit justement à l'intersection des discriminations.
Vous écoutez Opaque, le podcast de la section radio du QEJ consacré aux discriminations. Nulle part en paix, un épisode signé Ilham Esh Cheblaoui.
Alors, je suis opposant politique au régime de Mohamed VI au Maroc, oui. Je suis homosexuel, oui. Je suis athée, oui. Activiste, oui. Si on prend tous ces ingrédients, on en fait une recette avec un petit peu d'adjectifs comme mécréant, comme PD, comme connard, comme tout ce que vous voulez, ça va nous donner simplement un jus tellement amer. Et ben, c'est exactement ce que je ressentais au Maroc.
C'est l'histoire d'un départ, l'histoire d'un homme tiraillé entre l'amour de son pays et la réalité sociale qui n'accepte pas pleinement son identité. Il s'appelle Ashraf Al-Barlassi, il a 32 ans et il a plusieurs étiquettes qui ne lui rendent clairement pas service. Un Marocain gay, athée, militant pour les droits des personnes homosexuelles et opposant du régime. En gros, tout ce qu'il faut pour lui rendre la vie quasi impossible dans un pays conservateur. Aujourd'hui, Ashraf vit à Strasbourg, et c'est là que j'ai eu l'occasion d'échanger avec lui et de recueillir son histoire.
Je suis né et j'ai grandi au Maroc, où j'ai passé 28 ans de ma vie. C'était à Rabat, la capitale, dans un quartier populaire où la vie ne s'arrête pas. Je vivais avec mon père, ma mère, ma sœur et moi. On n'était que quatre.
À quel moment tu t'es rendu compte que tu aimais les hommes ?
Pour moi, ça s'est passé aux alentours de 12-13 ans, où je me suis rendu compte que j'avais une attirance envers mes voisins d'abord, envers les mecs qui étaient avec moi en classe. Je trouvais ça un peu curieux parce que ce n'est pas la norme de là où je viens. Ce n'est pas du tout quelque chose de soi-disant accepté, toléré. C'est quelque chose qui doit être caché, et c'est à ce moment-là où je me suis rendu compte que si je vais ouvertement rien qu'en parler, on va tout de suite me stigmatiser. Et du coup, j'ai gardé ça pour moi. Je croyais tellement en l'adage qui dit « vivant heureux, vivant caché ».
Se cacher, pour Ashraf, ce n'est pas un choix, mais une obligation. Au Maroc, les relations sexuelles entre personnes de même sexe sont illégales et même punissables de 6 mois à 3 ans d'emprisonnement. Au-delà de ça, au Maroc règne la culture du chouma, la honte. L'homosexualité est considérée comme contre-nature, comme une déviance sexuelle, un tabou, et on n'en parle surtout pas en famille.
La culture chouma, c'est la source de frustration. Il y a une hypocrisie actuellement au Maroc, ça veut dire qu'il y a tout le monde qui pratique tout, mais on n'arrive pas à assumer.
Il reste une charge de honte et une charge morale très très dure sur tous ceux qui sortent justement de la norme, donc évidemment sur les homosexuels, les pouvoirs publics et tous les acteurs de la culture institutionnelle vous disent en gros, faites ce que vous voulez, mais faites-le en cachette.
« moi, je vivais mon homosexualité de façon assez solitaire. Moi, mes parents ne m'ont jamais posé la question. En revanche, il y a eu des tentatives, par exemple, quand il y a des mariages. De temps en temps, il y avait ma mère qui appelait une ou deux filles à la table du dîner avec leur maman, qu'elle connaissait, etc., histoire de faire connaissance et tout ça. Eh bien, je me rappelle de cette fois de trop, où j'ai rencontré une fille, mais hyper sublime. Je suis sorti fumer une cigarette, elle m'a suivi, je lui ai dit « je t'arrête tout de suite ». Moi, je ne suis pas intéressé. Elle me dit « moi non plus, moi je suis lesbienne et j'ai compris que toi aussi, tu n'étais pas intéressé, tu ne serais pas homo ». Je dis « bah, tu sais quoi, au final, on est ensemble et c'est tout ». Voilà, les parents essayent de s'en sortir, mais ça, j'en parle avec du recul. Les parents savent, mais ils ne veulent pas l'avouer, mais ils essayent de réparer l'irréparable parce qu'il y a les représailles de la part de la famille au sens large. Moi, je viens d'une famille musulmane pratiquante qui, pour elle, ce genre de questions pose problème.
Et quand on grandit dans une famille musulmane, dans un pays où l'islam est la religion d'État, eh bien, on est naturellement musulman, ça paraît comme une évidence. Ashraf a rejeté la religion à 21 ans, il se revendique comme apostat, mais ça aussi, c'est un problème. L'article 222 du code pénal marocain interdit à toute personne connue pour son appartenance à la religion musulmane de manger, boire ou fumer en public, en plein jour, pendant le mois du Ramadan, sans raison valable. Parfois, les autorités décident de faire des piqûres de rappel, même dans des espaces privés. En 2022, par exemple, la police a arrêté 50 personnes dans un café de Casablanca pour avoir rompu le jeûne durant le mois de Ramadan. Les femmes ont été examinées pour prouver qu'elles avaient leurs règles.
Moi, j'étais un mécréant aux yeux du législateur marocain. Je ne faisais plus Ramadan, mais je mangeais en cachette jusqu'au moment où j'ai commencé à bosser dans les centres d'appel. Puisque c'était une entreprise étrangère sur un sol marocain, elle avait une autre manière de faire. Je pouvais préparer mon plat la veille, ou même il y avait une cantine ou des distributeurs d'eau. Et c'est là où je me suis dit, ok, c'est quand même assez troublant d'aller au boulot sur une terre, la terre de l'islam, parce que le Maroc est un pays musulman. Et une fois on franchit les portes de cette entreprise, on vit avec les lois de l'Occident. Il y avait une majorité, évidemment, qui faisait le Ramadan et tout, et qui travaillait avec moi, mais ça ne leur posait pas de problème, parce qu'ils savaient que si ils vont avoir un comportement haineux envers moi, qui suis un mécréant aux yeux de l'État, ils seront virés. Après, j'ai travaillé dans une boîte de communication au Maroc. J'étais digital account manager et c'était une entreprise marocaine. Le patron était marocain, mais c'était quelqu'un qui était pratiquant, mais qui était tellement respectueux de la vie privée des gens que même moi, pendant le Ramadan, avant le Ramadan, la première fois, je lui ai dit « Écoutez, voilà, pendant le Ramadan, moi, je ne fais pas le Ramadan. » Donc j'aimerais bien vous avertir, ne soyez pas choqués. Sa réponse était la suivante. Pourquoi vous me dites ça? J'ai dit, parce que j'ai pas envie que la police arrive juste pour ça, ce serait con en fait. Et là, il a simplement rigolé, il m'a dit, allez-y, on a réunion dans 10 minutes.
Les contraintes sociales, familiales et religieuses le tiennent en tenaille. Mais ce n'est même pas le poids des discriminations qui l'a poussé à partir. Ashraf a atterri en France pour un stage à France Média Monde. C'est la première fois qu'il quitte le Maroc, la première fois aussi qu'il prend l'avion, à l'âge de 29 ans. Ce qu'il voulait, c'est découvrir le Paris qu'il a tant fantasmé. Le Paris gay, comme il dit.
J'ai pris le métro et je suis parti à Châtelet. Et de là, je suis parti au premier bar dans le Marais. Premier cocktail dans le Marais, dans un bar gay, avec des gens, avec différents looks, Et moi, j'étais là comme un intrus. Et je me dis, mais merde, est-ce que c'est comme ça que ça se passe dans les pays libres ? Je voulais aller au bout de l'expérience. J'ai fait le Paris Gay by Night, la nuit. Et là, je me dis, mais ok, plus de liberté, il n'y a pas de police qui va t'arrêter. J'ai rencontré aussi des personnes LGBT venant d'Afrique du Nord et de la Maghrébie. Et pendant la période de mon stage, je partageais en fait ces sorties sur Instagram avec un groupe restreint de personnes auxquelles on fait confiance. Dans ce groupe-là, j'ai commis l'erreur, et je la paye jusqu'à aujourd'hui, de mettre ma sœur dans ce groupe de personnes. Parce qu'avec ma sœur, il faut savoir, on était complices. On était complices, on était bien, il n'y avait pas de problème. Elle aussi ne faisait pas le ramadan. En fait, on se faisait confiance, on se faisait confiance mutuellement, on se protégeait. Mais moi, en fait, elle m'a trahi. C'est-à-dire qu'elle a eu comme une sorte de jalousie qui l'a rendu un peu aveugle, et elle a enregistré à mon insu tout ce que je publiais dans ses stories privées. Elle est arrivée un soir en disant « Hé, papa, maman, regardez, votre fils est un PD, voici ce qu'il fait en France. » Mes parents, c'est des gens qui n'ont pas fait assez d'études. C'est des gens qui ont leur manière de voir la vie, leur manière de voir les choses. Le samedi matin, je me réveille à 11h, après une soirée bien évidemment bien arrosée, et je trouve sur mon WhatsApp ma mère qui a essayé de me joindre 50 fois, plus de 50 fois. À savoir que j'ai laissé mon père très malade en partant. Et donc je me dis, ah ça y est, peut-être qu'il est mort. Je prends une cigarette, un café, je m'installe à la fenêtre du studio où j'étais, et je l'appelle. Après le fameux allô, c'était un océan d'insultes, de mots incompréhensibles pour moi. Elle a pété un câble. Je la comprends, c'est une maman. On lui montre quelque chose qu'elle n'est pas censée voir. Au moment où je suis à Paris, c'est la fête du mouton. Mon père prend le téléphone et il me sort cette phrase qui a changé ma vie. Il me dit, j'aurais aimé que tu sois là pour que je t'égorge à la place du mouton. Et c'est là où je me suis dit, c'est bon, il n'y a plus d'issue, c'est bon, je ne peux plus revenir. Et donc j'ai raccroché, j'ai mis mon téléphone en mode avion, et j'étais en état de choc. Alors j'étais en pleurs évidemment, etc., mais tellement choqué que j'avais deux paquets de cigarettes de vin, je les ai fumés en moins d'une demi-heure. J'ai terminé mon stage et j'avais un avion le 2 septembre 2019. Je n'ai pas pris cet avion évidemment, et je me dis, mais c'est quoi la suite ? Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?
Il décide de couper les ponts avec sa famille. Son ami, qui est son conjoint aujourd'hui, lui propose de passer quelques semaines à Strasbourg, où il décide de s'installer. Il candidate pour un master en journalisme à l'université de Strasbourg, et après plus de 2 ans de formation, c'est le moment de trouver du travail. C'est là que la réalité des discriminations rattrape Ashraf, qui envoie des dizaines de candidatures.
Bah, on me ghost. On me ghost ou on me répond à la limite que ma candidature n'est pas acceptée. Il faudra renouveler dans quelques mois. Moi, je trouve que c'est quand même un peu dégueulasse parce que moi, j'ai passé 3 ans pour avoir ce master pour des raisons simplement administratives. Aujourd'hui, j'arrive à la conclusion suivante. Il y a discrimination en France quand il s'agit de l'embauche, peu importe le secteur. Parce que quand on s'appelle, comme moi, Ashraf, Mohamed, Karim et j'en passe, on a plus de difficultés à accéder à des postes, même étant qualifié, hein.
Pour pouvoir trouver du boulot, Ashraf al-Barrassi a pris une décision radicale, changer de nom et devenir Raphaël de Barrassi.
La même candidature, je l'ai envoyée avec mon futur nom et prénom, parce que j'ai fait le choix de m'assimiler. Donc du coup, on me répond, limite on me harcèle, oui, monsieur de Barrassi, etc. Est-ce que vous avez réfléchi, etc., etc. Ma réponse est oui, j'ai réfléchi, j'ai trouvé mieux. Parce que sinon, je serais en train de commettre un délit qui s'appelle usurpation d'identité et je serais parti en prison. Alors, ça on dit long. Le chemin est long. Il faut militer pour obtenir ses droits. Et moi, je ne baisserai pas les bras. Tant que je serai vivant, je ne baisserai pas les bras pour pouvoir... travailler dans mon domaine de prédiction qui est le journalisme. Aujourd'hui, je travaille dans un hôtel, j'ai découvert un autre secteur, un autre métier, mais ça me manque en fait, ça me manque. Moi, je ne me sens pas déraciné quand... Alors, je ne me sens pas déraciné quand on m'appelle Raphaël de Barrassi parce que, donc pour la petite anecdote, je m'appelle Raphaël, je n'ai pas cherché plus loin. Donc, que je m'appelle Raphaël Gabriel ou Mohamed ou Ashraf ou machin, ça ne change en rien mon engagement et le fait que je me retrouve dans les valeurs républicaines françaises. Les discriminations existent un peu partout, mais elles sont plus ou moins accentuées dans des pays et moins dans d'autres. De toute façon, il y aura toujours une lutte qui continue.
C'était Opaque, le podcast de la section radio du QEJ consacré aux discriminations. Cet épisode a été imaginé et fabriqué par Ilham El Cheblaoui en février 2024. Coordination Thomas Rozek et Céline Aslo, réalisation Jean-Christophe Galen. Tous les épisodes sont à retrouver sur le site du QEJ, QEJ.info.